I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes dealers sont des connaisseurs qui sont aussi pointus qu'un bon œnologue, ils savent ce que c'est qu'une molécule, ils savent de quoi est composé un produit, ils savent d'où il vient, ils ont un véritable amour de la fleur, un amour du pollen, et ils connaissent leur métier.
Et voilà le travail.
Alors écoute Mathieu, tes dealers, c'est vrai qu'ils connaissent peut-être leur métier, mais on te rappelle quand même que ça reste du trafic illicite.
Le gourmet que vous venez d'entendre s'appelle Mathieu Kassovitz, oui tout à fait, le réalisateur de La Haine, l'espion malotru dans le bureau des légendes, celui-là même. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission et on discutera en toute liberté avec lui de son rapport au pétard.
C'est le deuxième numéro de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Banana Kush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Bonjour et bienvenue dans Banana Kush, le podcast français consacré à l'actualité du cannabis. Parce que le cannabis est devenu un fait social et culturel incontournable, on entend le traiter comme tel, et que vous êtes toujours 5 millions ici, en France, à en consommer régulièrement. Bon, pas encore 5 millions d'auditeurs pour ce podcast, mais on garde espoir pour les prochains numéros.
Et dans ce nouveau numéro, vous allez entendre des entrepreneurs français qui prennent les devants.
Excellent.
Un acteur capable de boxer à 8h du mat' après 3 pétards.
Bonjour, c'est Mathieu Kassovitz.
L'histoire d'une bande d'ados anglais qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits.
Et des offres promotionnelles poético-cryptées.
Eps, les sandwichs sont prêts. Livraison toute la nuit.
À l'heure où on enregistre cette émission, eh bien des milliers de Canadiens sont toujours en train de faire la queue devant des boutiques d'un tout nouveau genre qui ont ouvert le 17 octobre à travers tout le pays, puisque le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif. Et on en parle tout de suite dans le journal.
Premier pays du G7, mais deuxième pays au monde. Le Canada légalise 5 ans après l'Uruguay, mais les modalités de cette légalisation diffèrent selon les provinces. Chez nos amis québécois, par exemple, il reste interdit de faire pousser du cannabis chez soi, mais on pourra fumer dans la rue à Montréal, contrairement à Toronto.
Pendant ce temps-là, aux États-Unis, 4 nouveaux États s'apprêtent à s'exprimer sur le sujet dans le cadre des midterms de novembre. Le Michigan et le Dakota du Nord pourraient légaliser le cannabis récréatif, tandis que le Missouri et l'Utah vont se prononcer sur le cannabis thérapeutique. Dans ce dernier état, l'église mormone soutient cette légalisation.
L'ancien premier ministre israélien se reconvertit dans le cannabis. Ehud Barak, qui était au pouvoir entre 1999 et 2001, est nommé à la direction d'Intercure, l'une des principales firmes qui produit du cannabis médical en Israël. Une reconversion qui illustre l'avance prise par le pays dans la recherche biomédicale autour de cette plante. Des études y sont menées depuis une dizaine d'années déjà.
Et pour finir avec le cannabis médical, au Royaume-Uni, les premiers médicaments à base de cannabis seront mises en circulation à partir du 1er novembre.
On termine avec une fake news made in France. Du cannabis pousse-t-il à bord de la station spatiale internationale ? Si l'info a circulé sur internet ces derniers jours, sachez qu'il ne s'agit en fait que d'un projet pour étudier l'impact de la microgravité sur du chanvre, à savoir la version sans THC du cannabis. On n'est donc pas prêt de voir de la weed pousser dans l'espace.
Banana Kush.
La 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 la.
Camille Diao.
La 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 la.
Christophe Payet.
La 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 la.
Salut, Momo dispo en moins de 30 minutes pour tes t-shirts marron et vert. Offre spéciale, 3 couleurs achetées, la 4e sera offerte.
Il y en a beaucoup.
Oh là là.
On est mal, patron.
On est mal.
On est très mal.
Camille, tu te souviens de cette folie au printemps où on a vu fleurir dans plusieurs villes de France des boutiques proposant des produits à base de CBD ?
Oui, tout à fait. Et il y a eu des files d'attente complètement hallucinantes qui se sont formées dans tout le 11e arrondissement de Paris, un petit peu les mêmes que celles qu'on a vues au Canada ces derniers jours. En revanche, ces boutiques, si je me souviens bien, elles ont toutes fermé en quelques jours et certains même des gérants ont été mis en garde à vue.
Oui, tout à fait. En fait, le CBD, c'est une molécule qui est contenue dans le cannabis. C'est une molécule qui possède des propriétés thérapeutiques, antidouleurs, décontractions, mais qui n'est pas psychotrope comme le THC. Du coup, coup, il y a un flou juridique en France sur ce CBD et sur le cannabis qui contient moins de 0,2% de THC. Ce qui fait que ça incite pas mal d'entrepreneurs à investir le terrain et à lancer leur business. C'est le dossier de cette émission et on reçoit deux de ces nouveaux entrepreneurs français du cannabis.
Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
Il faut savoir que le prix de la banane fluctue en fonction de l'offre et de la demande.
On commence avec Léo, bonjour.
Bonjour à vous.
Léo, tu t'es donc lancé dans le business du CBD. De quoi il s'agit exactement ?
Nous, on a monté une société qui s'appelle French Pharmacy, frenchpharm.ac. Et cette marque, elle a été créée comme une marque de bien-être avec la molécule CBD. C'est-à-dire que c'est une extraction de la plante et de cette extraction... on l'incorpore dans des produits du quotidien. C'est en général des produits de saison. Par exemple, on fait des confitures au CBD. Là, c'était l'ananas cet été. Bon, ben, on a fait plein de confitures ananas basilic.
Alors, comment t'es venue l'idée, en fait, tout simplement, au départ ? Comment est-ce qu'on se réveille un matin en se disant « Tiens, je vais me lancer dans le business du cannabis ». Cette affinité avec la plante, elle remonte bien avant la création de cette marque-là ?
Ah oui, depuis la sixième, hein, je crois. Moi, j'ai des parents qui consommaient de temps en temps le pétard, comme on disait. Ils se faisaient un petit pétard le soir et tout. Et je trouvais mes parents très cool après avoir fumé un pétard. Et puis, arrivé à l'école, bah, j'ai voulu me la péter et dire à tous mes potes « Bah, moi, mes parents, ils fument. » Donc j'en ai ramené à l'école une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est devenu une habitude de ramener régulièrement à fumer au bahut. Donc voilà, j'ai endossé pendant plus de 20 ans le rôle du dealer de bœufs auprès de mes potes.
Est-ce que ta petite activité de dealer
aide ? Ma petite activité, déjà, personne ne t'a dit que c'était une petite activité, déjà. On était sur une activité de deal. Non, maintenant, on peut en parler puisqu'il y a prescription, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même bien d'avoir une notion, en tout cas, horticole, on va dire. Après, de vendre de la bœuf aux copains, ça aide pas à monter une structure comme aujourd'hui elle est montée.
Alors comment ça se passe au tout début quand on se lance, la vision de l'entourage, des banques, j'imagine, des financeurs, quand on leur explique je monte un business dans le cannabis et je vais vendre du CBD.
Dites-vous que au mois d'avril, la totalité de la France, quasiment, n'avait aucune connaissance du CBD et du cannabis. Quand on a créé la boîte, personne ne savait ce que c'était le CBD. Et de fil en aiguille, le banquier regardait Internet, il regardait ce qui se passait à la télé, et nous ont fermé SumUp, le contrôle, après nous ont fermé un autre compte, après on a dû trouver une autre banque, après machin. Et de fil en aiguille, on est traité comme des narcotrafiquants, alors qu'en réalité, on monte un commerce comme un autre, avec de la TVA, avec un business plan.
Vos produits, ils sont produits où et comment ? Vous avez cette traçabilité ? Vous travaillez avec des producteurs locaux, étrangers ? Comment ça se passe ?
Nous, on est « made in Paris ». Le CBD, il est importé d'Espagne et ensuite on l'incorpore dans des laboratoires à Paris ou en banlieue parisienne. Pour le sirop, c'est en Vallée de Chevreuse.
Et est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a 5 minutes avant d'entrer en studio, vous vous êtes fait interpeller par les...
On peut en parler. Alors bon, moi j'ai l'habitude d'être décontracté. Donc je me suis dit, je vais faire un petit joint avec Benoît, mon associé. Bon, lui, c'est lui qui roulait, c'est lui qui s'est fait interpeller, c'est lui qui est aujourd'hui en garde à vue au moment où je vous parle.
Petite pensée pour Benoît, donc.
Voilà. On est avec toi.
Alors, justement, vous vous êtes fait interpeller et contrôler par les flics avec cette jolie mallette, Léo, que tu as amenée avec toi, qui est remplie de tous les produits que vous proposez. Moi, ce qui me frappe en voyant cet assortiment, c'est déjà le packaging, le design qui est très haut de gamme. Ça se voit que vous positionnez vos produits comme une gamme, pas de luxe, mais en tout cas très haut de gamme.
C'est de luxe, c'est élégant.
Oui, de l'élégance à la parisienne.
Très
éloigné de l'image cliché du cannabis, du truc de stoner.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule feuille de cannabis dessinée sur vos paquets. Et puis la deuxième chose qui me frappe, c'est la variété des produits. Le seul endroit où j'ai vu en fait ce type de produit avant, c'était aux États-Unis. Est-ce que c'est là-bas que tu allais chercher ton inspiration ?
Moi, ça m'interloquait. Je voulais vraiment aller voir de mes propres yeux ce qui se passait en Californie. Donc on a organisé un voyage cet été et les campagnes de pub qu'on peut voir aux US, elle ne relate jamais d'un mec qui fume un ouinge. Donc si on arrive aujourd'hui à le présenter d'une manière qui est plus séduisante, trouver ce moyen d'en parler correctement, je pense que c'est comme ça que ça arrivera, et pas autrement. Mais il y a encore des tabous, il y a encore des gens qui veulent pas s'afficher. Tant qu'on n'a pas des comédiens ou des gens vraiment qui s'affichent en tant que fumeur, des politiques, des acteurs, des sportifs même, parce que le nombre
des acteurs, ça tombe bien, parce que dans quelques minutes, on va entendre Mathieu Kassovitz qui nous parle de
Lui, alors Mathieu, Mathieu, il aime bien la beuh, apparemment. Bon.
Bah, merci beaucoup, Léo, d'être passé nous voir dans Banana Cush ou Banana Cush. On prononce comme on veut. Mais tu n'es pas le seul businessman à venir nous rendre visite dans cette émission. C'est une entrepreneuse qui va nous rejoindre à présent. Elle n'a jamais fumé un pétard de sa vie. Et pourtant, elle va nous expliquer tout ça. Merci, Léo, à bientôt.
Merci à vous.
We have no bananas.
Banana Cush.
We have no bananas today.
Camille Diao, Christophe Payet.
Coucou, ça va? C'est Kevin. Désolé pour cette longue absence. J'étais en deuil. J'ai dû prendre du recul. Je suis de nouveau dispo comme d'habitude. Allez, à toutes.
Voir modalité dans les magasins participants.
Bonjour à tous, fermeture prévue le 26 juillet jusqu'au 27 août, merci. On sera ravis de vous servir à notre retour. Bonnes vacances, hein.
Nous,
c'est le coup.
Vous écoutez le deuxième numéro de Banana Cush et c'est une non-fumeuse qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laure Bougain.
Bonjour Camille.
Tout comme Léo qui était avec nous il y a quelques minutes, tu fais partie du petit monde des entrepreneurs français du cannabis, mais tu n'as pas du tout le même parcours, pas du tout le même background que lui. Alors pour commencer, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser à cette plante.
Oui, j'ai grandi en Bretagne et moi je connaissais déjà très bien le chanvre puisque mes grands-parents le cultivaient dans l'Ouest. Donc le chanvre, c'est une plante qui fait partie du genre Cannabis sativa, mais c'est une variété qui pousse légalement en France puisqu'une vingtaine de variétés sont autorisées. Donc j'étais assez consciente des bienfaits de la plante et j'ai découvert petit à petit les bienfaits de la graine et notamment sa très très forte concentration en oméga 3 et 6. Donc on va les chercher dans l'alimentation, mais on peut aussi aller les chercher dans la cosmétique. Ocaran s'appelle ainsi parce que ça veut dire je vous aime en breton.
Juste pour préciser, je ne sais pas si on l'a dit, mais Ocaran, donc c'est la marque que tu as créée en fait en tant qu'entrepreneuse.
Exactement, okay. Ocaran, c'est une marque de soins à base de cannabis sativa, donc qui est le nom du chanvre.
Et j'ai pas entendu le mot CBD, est-ce que ça veut dire que c'est encore d'autres propriétés que tu vas chercher dans cette plante?
Alors les omégas, on les trouve dans la graine, le CBD on le trouve dans la fleur.
D'accord.
On a un petit problème en France actuellement, mais qu'on est en train de travailler à résoudre, c'est que les agriculteurs, d'après la loi, devraient jeter les fleurs de chanvre. On ne peut pas aujourd'hui avoir du CBD français. Or, nous, on est extrêmement attachés à la production Made in France. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de CBD dans les produits.
Comme je le disais en introduction, toi, tu n'es pas une consommatrice de cannabis récréatif.
En effet, je ne fume pas. Voilà. Par contre, j'ai d'autres utilisations de cette plante. Et ce qu'on oublie malheureusement en France par activisme prohibitionniste, c'est qu'on n'est pas que sur des récréatifs. Il y a tout un champ qui existe autour. Il y a le cannabis médical qu'on connaît très bien dans les pays où c'est légalisé. Puis il y a le chanvre bien-être.
Alors, ce qui est marrant, c'est que alors, par rapport à Léo avec qui on parlait tout à l'heure, qui lui est dans le cannabis depuis qu'il est au collège, comme il nous le disait, entre guillemets, toi, tu as un parcours finalement un peu type des startups d'aujourd'hui, enfin école de commerce, incubateur, etc. Mmh. Est-ce que le cannabis aujourd'hui, c'est un business comme un autre?
C'est un business comme un autre, oui, dans le sens qu'on peut tout à fait en vivre. Après, on a beaucoup de freins pour se lancer. Typiquement, nous, on était à la recherche de fonds pour accélérer l'entreprise. Bon, bah, pour trouver un investisseur en France spécialisé dans le cannabis, il faut se réveiller très tôt. Le fait est qu'on n'a pas du tout accès aux outils classiques de vente online. Donc, on n'a pas Facebook Ad, on n'a pas Instagram Ad, on n'a pas YouTube Ad. On est très limité sur AdWords quand on ne se fait pas bloquer.
Ça, tout ça, c'est impossible aujourd'hui.
Ça, c'est banni. Et c'est banni par les Américains vivant en Californie, ce qui est assez drôle, en fait, quand ils pensent.
Et alternativement, tu parles de chanvre de cannabis, de chanvre de cannabis. Mmh. Alors, quel est le mot qu'il faut employer pour toi?
Les mots qu'on choisit donnent nos opinions. En fait, en France, on a complètement diabolisé le mot cannabis. Pour dire ça, c'est juste la drogue, mais c'est pas vrai. Puisqu'en fait, la différence qu'on fait en France entre le cannabis ou le chanvre industriel, c'est le pourcentage de THC. Donc on décide en France qu'en dessous de 0,2%, c'est légal, on a le droit de dire chanvre, c'est sain et il n'y a pas de souci. Puis au-dessus de 0,2%, c'est diabolique, c'est de la drogue, et là, c'est le mot cannabis. Mais cette différence légale de 0,2%, elle varie d'un état à l'autre. En Suisse, on parle de 1%, à l'échelle européenne, c'est 0,3%. Donc moi, j'utilise les deux, c'est une vraie volonté. Et c'est assez hallucinant parce que sur les 3-4 derniers mois, on a vraiment vu qu'il y a un momentum. Maintenant, quand on prononce le mot cannabis, c'est sympa, ça génère de la discussion et on est moins montré du doigt.
T'as observé le changement d'image?
C'est impressionnant. En fait, il y a 80 cannabinoïdes à peu près dans la fleur. Donc on parle tout le temps du THC qui donne des effets psychotropes et du CBD. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Le CBG, le CBN, le CBV, enfin il y en a vraiment une quantité infinitésimale. Et il faudrait évidemment aller travailler sur tous. Donc nous, on adorerait pouvoir lancer des études là-dessus, ce soit sur l'eczéma, le psoriasis. Et c'est dommage de ne pas avoir un centre de recherche français sur la question. Ce qu'on dit souvent, c'est que depuis la création de l'Internet, c'est le premier secteur à se restructurer de zéro. Et en fait, on a laissé Internet aux Américains et là, on est en train de laisser le cannabis aux Canadiens.
Merci beaucoup, Laure, d'avoir accepté notre invitation dans Banana Kush.
Merci à vous.
On marque une toute petite pause et en attendant Mathieu Kassovitz, on va retrouver notre chroniqueuse maison, la star de cette émission. J'ai nommé Marie Misset. À tout de suite.
Banana Kush.
Hachiche, cannabis, marijuana.
Ce serait donc cela, le secret de la banane.
Hello, c'est Momo, je suis de retour avec les meilleures qualités, goût de milkshake, d'Île-de-France, plusieurs saveurs au choix, chocolat ou pistache, livraison moins de 30 minutes.
Catégorie 1, origine France.
Marie Misset, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour Camille.
Petit cours d'histoire avec toi aujourd'hui.
Oui, parce que je me suis dit que pourquoi pas. Est-ce que vous savez, Christophe et Camille, de quand date en vrai l'interdiction de consommation du cannabis en France?
Je pense que c'est assez tardif, je dirais dans les années 60.
Pas tant que ça, mais ça s'est énormément renforcé dans les années 60. En vrai, ça date de 1916, à l'époque c'était dans un package avec l'opium et la morphine. Mais la loi française a été renforcée en 1939, et ce, 2 ans seulement après la Marijuana Tax Act adoptée aux États-Unis. Et l'histoire de cette mesure, elle est assez instructive. Elle intervient seulement 4 ans après la fin de la prohibition aux États-Unis, vous savez, cette interdiction de vendre et de consommer de l'alcool qui a commencé en 1919. Et ça a eu lieu, donc, ce Marijuana Tax Act, après une campagne médiatique intensive et très violente contre la marijuana. Alors, si on fouille dans les journaux de l'époque, on tombe sur des faits divers assez hallucinants qui se multiplient les uns après les autres. Par exemple, une famille entière assassinée par un jeune forcené en Floride. Alors, je vous passe quelques détails de l'article. Les agents le tenaient pour un jeune homme raisonnable et plutôt tranquille. Il est désormais dans un état de folie pitoyable. Ils ont cherché pourquoi. Le garçon a déclaré qu'il avait l'habitude de fumer quelque chose que ses amis appellent des muggles, une appellation enfantine de la marijuana. On apprend en passant le terme muggles. Voilà, et des articles comme ça en 1936 dans la presse américaine, il y en a plein. Et plusieurs films sortent cette année-là aussi, dont Wild Weed. Le scénario, c'est toujours le même. Des jeunes accrochés à leur tout premier joint, des hallucinations incroyable, et puis le passage à l'acte, ça peut être des meurtres, des viols, enfin c'est toujours réjouissant.
Dans le même genre, je vous conseille Reefer Madness aussi, un film des années 30 américain,
assez drôle. Tout à fait, il est dans cette liste-là. Et derrière tout ça, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a un homme qui s'appelle Harry Jacob Hensliger, qu'on a appelé à l'époque le McCarthy de la drogue. En 1930, il était aussi le premier commissaire du Bureau fédéral des narcotiques. Le bureau, donc, occupé à faire respecter la prohibition. Il y avait beaucoup d'agents. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en 1934, la prohibition prend fin. Les agents fédéraux de ce bureau se retrouvent sans travail. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut bien leur trouver une occupation. C'est en tout cas la thèse de Jean-Michel Groult, un auteur français qui a écrit « Plantes interdites, une histoire des plantes politiquement correctes ». Il écrit noir sur blanc que l'interdiction du cannabis aux États-Unis était le résultat direct de la fin de la prohibition, puisqu'il fallait lui trouver un substitut pour justifier les activités du Bureau national des stupéfiants. C'est d'ailleurs assez intéressant de se rappeler le pourquoi de la fin de la prohibition aux États-Unis. L'argument principal pour y mettre fin n'a pas tant été sa grande inefficacité. Non, on était en 1934, c'était la grosse crise. L'immense manque à gagner pour l'État américain dans cette histoire de prohibition était le premier argument massu pour réautoriser l'alcool. Un argument qui est pas mal utilisé aujourd'hui aussi dans tous les pays qui font la transition vers la marijuana légale.
Mais quel cynisme! Merci beaucoup Marie.
Au revoir Camille et Christophe.
On vous promet Mathieu Kassovitz depuis le début de cette émission. Eh bien, ce n'est pas Mathieu Kassovitz qui vient à Banana Kush, c'est Banana Kush qui va à Mathieu Kassovitz. On l'a rencontré à la terrasse du Mama Shelter, un hôtel parisien, il y a quelques jours. On va écouter ça dans un tout petit instant.
I'm a banana, I'm a banana.
Tiens Jamie, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
Salut les amis, c'est Toto. Désolé pour cette absence, de retour tous les jours de 15h à minuit avec au menu off promo pour Amnesia 6,3 grammes et Marron 8,9 grammes, ça bouge pas. Voilà, à très vite et veuillez SVP me répondre avec un petit ok, c'est cool, bis.
Offre valable dès demain et jusqu'au 23 octobre, voire conditions en magasin.
Mathieu Kassovitz, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Banana Kush, acteur, réalisateur. Vous êtes de retour cette année dans la peau de l'espion traître Malotru dans la série de Canal+, Le Bureau des Légendes, dont c'est la 4e saison. Récemment au cinéma, on a aussi pu vous découvrir en sportif, hein, dans le rôle du sparring partner de boxe, alors que c'est vrai que vous n'avez jamais caché avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément celle d'un champion de boxe. Vous ne cachez pas votre consommation assidue de cannabis. Vous êtes quel type de fumeur, Mathieu Kassovitz?
Il ne faut pas que la police s'en serve pour m'arrêter après, quoi. C'est ça le problème. Non, je suis un gros fumeur. J'ai eu la chance de ne pas fumer jeune. J'ai commencé à fumer à 25 ans. Comme tout le monde, on a besoin d'échapper un petit peu à la dure réalité de la vie et arrondir un petit peu les angles. Il y a des gens qui le font avec des médocs, il y a des gens qui le font avec des drogues plus dures, il y a des gens qui le font avec de l'alcool. La majorité le font avec de l'alcool. Moi, personnellement, je bois pas. Le problème du THC, c'est que ça vous met bien si vous êtes bien, ça vous met mal si vous êtes mal. Donc c'est quelque chose qui doit s'apprendre. On réagit pas tous de la même façon au même produit. Donc il faut savoir ce qui est bon pour soi et la façon dont vous pouvez l'utiliser. Après, c'est comme pour toutes les addictions, il faut les commencer le plus tard possible et après voir si ça vous va. J'ai la chance d'avoir une constitution qui est spéciale. Quand je m'entraînais pour la boxe et que après 2 heures d'entraînement, je disais à mon coach que j'avais fumé 3 joints avant et je lui dis est-ce qu'il faut vraiment que je fasse le travail d'arrêter. Il me dit non, si ça te décontracte, fais ce qui est bon pour toi.
3 joints avant un entraînement de boxe, vous êtes un surhomme en fait.
À 8h du matin surtout.
À 8h du matin, ouais.
Il est bon dans chez Elvis.
C'est pas le mien, celui d'Hubert.
C'est pas évident aujourd'hui en France d'être une personnalité publique et de dire publiquement voilà, je m'appelle Mathieu Kassovitz et je fume du cannabis. D'ailleurs, vous faites partie des peu d'acteurs ou artistes qui le disent. C'est facile à assumer.
Pourtant, je vous garantis que tous les acteurs fument. Tout le monde fume. Tout le monde fume.
Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal à le dire?
Parce qu'ils ont peur de ils ont peur du gendarme et qu'ils ont peur de moins vendre de billets d'entrée. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que c'est une erreur de ne pas affirmer qui on est juste pour pouvoir un peu préserver le bourgeois. Je pense que c'est surtout qu'on est dans un pays qui est le plus gros consommateur d'Europe. Tout le monde fume. Je pense que c'est complètement absurde de ne pas en parler. Vous avez raison de faire une émission là-dessus.
C'est quoi le problème en France avec ça? Pourquoi on peut dire qu'on boit de l'alcool, voire qu'on en abuse, et que ça peut avoir une image romantique d'être un alcoolique, et dire qu'on fume un joint, c'est problématique, c'est un problème culturel?
Oui, je pense qu'il y a un problème de tradition, mais pourtant on aurait dû être le premier pays d'Europe à ouvrir ça, à ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre culture, et pas seulement de notre culture de fumeur, mais notre culture aussi de bon vivant. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas ce pays-là.
Est-ce que vous vous considérez comme un militant? Je faisais une petite recherche pour préparer cette interview. Je suis tombée notamment sur un tweet que vous avez fait il y a peu de temps pour vous offusquer d'une descente de police à 24 policiers pour récupérer juste 7 grammes de shit. Et puis même, en remontant beaucoup plus loin, au moment de la sortie de La Haine, vous êtes allé sur le plateau d'une émission de Bernard Pivot, Bouillon de Culture, avec une casquette et une grosse feuille de cannabis. C'est de la provoque ou c'est déjà un acte militant?
Non, je pense que c'est un acte militant dans le sens où... Fumer de l'herbe dans la société aujourd'hui en France, c'est l'acte de rébellion le plus pacifique que vous puissiez faire sur la société. Le fait de dire « je refuse d'une manière pacifique votre façon de voir le monde ». Il y a un mème qui court en ce moment sur Internet d'un vieux fumeur avec un ouin. On lui dit « mais pourquoi tu fumes ?» Et il dit « les gars, soyez heureux qu'on fume parce que ça évite qu'on vous casse la gueule ». C'est pas que je suis militant, je vais pas aux manifs pro-cannabis. Je suis pas pour que les gens fument du cannabis. Mais je suis contre cette chasse aux sorcières qu'on fait, qui est absurde et qui met... Qui rend la vie des gens difficile. Si les gens fumaient plus de CBD, ces drogues de relaxation musculaire qui sont extrêmement efficaces, et qu'on prenait un peu moins de Temesta et de ces putains de conneries. On a des contrôles de police pour le cannabis et l'alcool, mais s'il vous plaît, contrôlez les pilules.
D'ailleurs, dans l'émission précédente, on en parlait de ça. Aux États-Unis, il y a des études qui montrent que dans les États où le cannabis thérapeutique est autorisé, la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs chute considérablement.
Le cannabis est une médecine, avant tout. C'est une plante merveilleuse, qui sent bon, qui est magnifique, qui pousse naturellement avec de l'eau et de la terre. Vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est un des cadeaux de la terre, et je pense qu'on doit l'utiliser dans le meilleur des sens.
Hey, c'est pas mortel comme face, ça. Le mec, il lui dit, moi, je te tue gratuit.
Vas-y,
gratuit,
arrête de parler, passe-moi loin. Hein?
Alors, puisque Camille évoquait la haine tout à l'heure, c'est vrai que dans La Haine, Vince, Saïd et Hubert passent pas mal de temps à fumer quand ils zonent, et le shit est presque un personnage secondaire, ou en tout cas ça fait partie du décor de cette banlieue-là. Comment on filme ça? Est-ce qu'il y a une esthétique de la fumée, du geste?
Il y a une scène où il se roule un joint, après on voit, il fume de temps en temps parce que on se fait chier dans une cité, donc on fume. C'est une culture qui fait partie du Maghreb. Et quand tu vas au Maroc, les grands-pères fument. Et ils fument comme on boit un verre de cognac ici. Donc cette culture-là, elle fait partie d'une manière intègre de cette jeunesse-là. Et on peut pas lui retirer ça. Et on peut pas la condamner pour ça. Maintenant, ce qu'on peut condamner, c'est le trafic qu'il y a autour, c'est la violence que ça inspire. Et c'est pour ça qu'il faut la légaliser.
Le trafic, c'est de la violence, mais c'est aussi en quelque sorte l'achat d'une paix sociale, parce qu'il y a tous ces petits jeunes qui ont rien d'autre, bah, qui se démerdent, qui survivent en fait, en faisant les guetteurs, etc.
Transformons ces petits jeunes en entrepreneurs. Légalisons le cannabis et permettons à ces petits jeunes qui ont déjà les contacts et qui sont déjà assez malins pour pouvoir faire rentrer et faire du commerce et payer des impôts là-dessus. Payer des impôts.
Et t'endors pas sur le joint, Saïd.
Je croyais que tu fumais plus.
Je le croyais aussi.
Mathieu Katsovitz, on a une petite tradition en fin d'émission, puisqu'on est dans Banana Kush, on propose à nos invités de partager une banane avec nous. Est-ce que ça vous dirait ?
Ici, j'ai failli me faire virer déjà. Mais si tu veux y aller, vas-y, hein. Tu prends la responsabilité.
Et bah, du coup, on va aller déguster cette petite banane. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Banana Kush. On se retrouve dans quelques petites minutes en fin d'émission. À tout à l'heure.
Merci.
Banana Kush.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ?
Eh ben, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
Banana, 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 nanana, nanana.
Moins 70% Marion, pour faire le plein d'énergie.
Salut ma poule, quoi de neuf avec ce beau temps ? Je te rappelle, je suis dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Petite promo en ce moment, n'hésite pas, bonne fin d'après-midi.
Allez, régale-toi.
Et maintenant Camille, je crois que c'est presque la fin de cette émission, mais donc si on approche de la fin, c'est l'heure de parler de musique, puisqu'à chaque émission, tu nous proposes une histoire de la musique et du pétard, bien sûr.
Et cette fois-ci, on part en Angleterre, en 1982, quand une bande d'ados d'origine jamaïcaine décide de monter un groupe et de l'appeler Musical Youth, jeunesse musicale en français. Comme beaucoup d'ados anglais de l'époque, les quatre membres du groupe aiment beaucoup écouter du reggae en fumant des pétards. Ils décident donc de reprendre un de leurs morceaux préférés, Pass the Coochie, Passe-moi le joint, des Mighty Diamonds. Pass the Coochie from the left hand side. Sauf que tout ça risque bien de déplaire à la BBC, la radio nationale anglaise, réticente à toute promotion de la drogue à son antenne, mais tout de même incontournable pour se faire connaître. Ni une, ni deux, passe de Coochie, passe-moi le joint, devient passe de Dutchie, passe-moi la marmite, et toutes les références à l'herbe sont effacées de la chanson pour être remplacées par le mot food, nourriture. Résultat, l'ascenseur n'y voit que du feu et le titre finira numéro 1 des charts dans 5 pays différents, glanant même au passage une nomination au Grammy Award.
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un morceau qui parle de marmite et de soupe peut devenir un tube.
Évidemment, le public n'est pas aussi dupe que la BBC et saisit assez rapidement le sens originel du morceau. D'ailleurs, le mot « Dutchie » est ainsi entré dans l'argot britannique et désigne aujourd'hui un blunt, c'est-à-dire un joint roulé dans une feuille de cigare.
Beau pied de nez à la censure.
Exactement.
Alors, on écoute cette soupe tout de suite. Musical Youth, Pass the Dutchie.
This generation rules the nation with Russian. Use the answer and food of love. Sounds to really make you rub and scrub. I said,
pass the Dutchie on the left hand side. Pass the Dutchie on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and pop.
It a go done.
Give me the music, make Jano. Me jump
in a dee. It was a cool and lonely, breezy afternoon.
How does it feel when you got no food?
I could feel it cause it was the month of
June. How does it feel when you got no food?
So I left my gate and went out for a walk.
How does it feel when you got no food?
As I passed the dreadlocks camp, I heard them say,
how does it feel when you got no food?
Pass the Dutchie on the left hand side.
I said,
pass the Dutchie on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and prom.
It a go done.
Give me the music, make me look in a de down. Bang 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 bang.
So I stopped to find out what was going on.
How does it feel when you got no food?
Cause the spirit of Jah, you know he leads you on.
How does it feel when you got no food?
There was a ring of jets and the session was there in
chip on the left hand side. It a go fun.
Give me the music, make me jump and pump.
It a go done.
Give me the music, make me rockin' at the dance. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say
pass the dough chip on the left hand side.
I say
pass the dough chip on the left hand side. It a go fun.
Give me the
chip on the left hand side.
I say,
pass the dough chip on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump, pam, pam.
It a go done.
Give me the music, make me rock in a di dum.
On the left hand side.
I say, I say,
on the left hand side.
I say, I say,
on the left hand side.
We meet.
On the left hand side.
Banana Cash.
Tu transportes de la marie, n'est-ce pas?
Yo, c'est Todd. Je suis de retour avec des bons disques, Al Green ou James Brown. Dispo 24/24 et livraison en 20 minutes.
Wow! I feel good.
Ah, la poésie, des textos de dealers, des métaphores, des analogies, des figures de style, en veux-tu, en voilà. C'est toujours très créatif, mais pas toujours simple à décoder.
Sauf pour les flics, a priori, hein, personne n'est dupe. Enfin bon, c'est pas grave, c'est l'art pour l'art, hein, c'est pour la beauté du geste.
On va dire ça. Cette émission touche donc à sa fin.
Enfin presque, il faut pas oublier Mathieu Kassovitz qui nous attend toujours. Parce que c'est la tradition, c'est une institution presque. C'est la banane de fin avec notre invité. Alors restez bien jusqu'au bout pour en profiter. C'était Christophe Payet.
C'était Camille Diao et c'était aussi Charlène Nouyoux. À la réalisation que vous n'entendez pas, mais sans qui ce podcast ne serait que l'ombre de lui-même.
C'était Banana Cush.
Et on vous dit bye bye.
Salut. Ben nous voilà, c'est la fin de cette émission, c'est l'heure de déguster cette banane de fin avec vous Mathieu Kassovitz.
Bien sûr.
Je vous laisse entamer la banane.
Ça sent pas la banane ça.
Alors est-ce qu'elle est correcte cette banane quand même?
Elle est bien mûre?
Ça va, ça fait son effet.
Banana Cash. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drugueinfoservice.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.